Bonjour, ici Roger Malina. Nous sommes sur la chaîne Mémoire de pionniers précurseurs, sur la plateforme Creative Disturbance. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec un ami, un collègue, Jacques Montelbrot, ici à Aiguille, en Provence. Et Jacques a été un des pionniers des relations art-sciences, parce qu'en effet, il a eu depuis toujours une carrière mixte, hybride, en tant que physicien et en tant qu'artiste. Alors explique-nous ça un peu.
Bon, ben en fait, j'ai commencé à faire... Bon, j'ai commencé d'abord à faire l'art quand j'avais 13 ans, oui. À Houston. Heureusement, là-bas, on avait pas mal de temps, alors je pouvais faire du football, de l'art, etc., de la peinture. Et je fais plus de football, mais je fais continuer à faire de la peinture, oui. Depuis l'âge de 13 ans. Et en fait, je ne faisais pas du tout de science à ce moment-là. Mais c'est plus tard. Enfin, j'ai continué toujours à faire de la peinture et chaque fois que la science m'empêchait de faire de la peinture, j'ai plutôt arrêté la science. Mais enfin,
ma formation
scientifique. Bon, alors je suis, disons, mon père était un grand mathématicien, était, oui. Professeur au Collège de France de mathématiques et j'avais l'impression. Maintenant, je ne sais pas si j'ai toujours cette même impression. J'avais l'impression que nous vivons dans une époque scientifique et que pour comprendre notre époque, il faut faire de la science. Et alors, j'ai fait tout naturellement. J'ai fait le bac et puis après la taupe. Et puis après, j'étais à la Sorbonne. J'ai passé agrégation de mathématiques. Puis après, j'ai fait un doctorat en physique théorique.
Oui, bon, physique théorique.
C'était plutôt mathématique. Mais oui. Enfin, c'était autour de problèmes des particules élémentaires, le, oui. Bootstrap à ce moment-là,
d'accord.
Dont on parle plus beaucoup.
Oui.
Mais enfin, c'était bon. Et après, je suis également allé au CERN pendant une année. Le CERN, ça devait être dans les années 80 ou quelque chose comme ça. On m'a proposé de rester au CERN,
oui.
Une année encore et j'ai refusé parce que je pouvais pas faire en même temps la peinture et la physique théorique au CERN. Et alors, enfin, chaque fois que j'ai eu à choisir, ben, j'ai toujours choisi d'avoir une carrière qui me permettait de faire de la peinture. Et en particulier, j'étais au CNRS et j'ai démissionné du CNRS pour faire de l'enseignement et qui me permettait d'avoir le temps de faire de la peinture. Parce que ça me donnait mauvaise conscience de faire de la peinture au CNRS, parce qu'il faut, au CNRS, il faut passer tout son temps à réfléchir aux problèmes de physique. Bon, alors.
En effet, l'interdisciplinarité est beaucoup soutenue, mais beaucoup découragée.
Voilà, voilà. Et en fait...
Donc c'est à ce moment-là que tu es venu à Marseille ou...
Oui, alors je suis venu à Marseille, justement. Je suis venu à Marseille, effectivement. Parce que j'ai découvert la Provence pendant mon service militaire. Et je suis venu à Marseille, en fait, attiré par... le souvenir de Par Cézanne. À Aix, je suis venu vivre à Aix, près d'Aix, à Aiguille, fasciné par Cézanne. Et puis également, il y avait Talcott à ce moment-là, qui était le peintre Talcott qui était à Marseille.
Juste avant, tu m'as cité une phrase de Cézanne. Sur...
Ah oui, alors ça c'est autre chose. Peut-être une parenthèse d'abord avant cette phrase de Cézanne. Ce qu'il y a, c'est que faisant de la peinture et faisant de la science, je me suis intéressé au... Ça m'a permis de découvrir ce qu'il y a de commun dans les mécanismes de création entre l'art et la science. Et c'est ça, en fait, mon sujet de réflexion essentiel. Et en particulier, Piaget, qui a fait l'épistémologie génétique, avec un élève de Piaget, on a appliqué ça à l'art.
Oui.
Bon, et alors justement, il y a, à propos de Piaget, je me suis rendu compte que pour Cézanne, il y a beaucoup de phrases pensées ou dites par Cézanne ou qu'on trouve dans ou des choses qu'on trouve dans ses peintures qui disent avant Piaget ce que Piaget dira plus tard.
Oui, oui, oui.
Par exemple, Piaget, Cézanne parle de ce que pensent nos yeux.
Oui.
Et qui est une belle phrase, enfin, et Piaget dit, il y a des analogies telles entre la vision et la pensée qu'on a peine à savoir ce qui est la pensée, ce qui est la vision. Et il y a d'autres choses de Cézanne, par exemple, quand il dit que nous ne voyons que certains détails, etc., dans la nature. Là encore, c'est... Et puis une très belle phrase de Piaget, c'est unir les formes des femmes aux épaules des collines. Unir les formes des femmes aux épaules de collines.
Oui.
Déjà, épaules de collines, c'est une belle expression. Et ça rejoint à ce que dit Piaget, que l'œil prolonge la vision, passe d'un objet à un autre, l'effet de...
En effet, que l'œil est un organe actif et qui est dirigé par la pensée mentale. Alors, j'ai lu, je crois, la semaine dernière, une phrase de Darwin. Alors, je oublie exactement la phrase, mais il disait qu'on ne peut pas prendre de données sans hypothèse. Et donc, c'est un peu même idée. On n'est pas dans le monde avec un canevas blanc qui est imprimé par le monde.
Il faut avoir une structure préalable.
Une structure de pensée préalable, aussi bien pour l'artiste que pour le scientifique. Parce qu'en effet, quand le scientifique entre dans une forêt, il y a des milliards de choses qu'il pourrait étudier. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier plutôt que quelque chose d'autre? Quelles connexions on va essayer de mettre en relation? Et c'est clair que l'artiste et le scientifique se trouvent devant cette... ce problème
cognitif commun. Il y a une structuration du réel, oui. Et nous ne voyons que ce à quoi nous sommes préparés au point de vue structurel.
Par contre, une des choses... moi, je suis venu en Provence il y a 20 ans. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de ton travail récent. Et là, tu t'es beaucoup intéressé aussi à la musique et l'image en même temps. D'où c'est venu cet intérêt?
Oui, alors, c'est... c'est tout à fait par hasard. Il y a un compositeur qui s'appelle Marcel Frémiot qui a créé le MIM, Laboratoire de musique et informatique de Marseille. Et c'était dans les années, je sais pas, il y a une vingtaine d'années,
il y a une trentaine d'années.
Avec cette musique contemporaine où il n'y a plus les règles traditionnelles, ils sentaient qu'ils avaient besoin d'un mathématicien qui leur fournisse des structures auxquelles ils pourraient qu'ils pourraient utiliser pour leur musique. Et ils ont fait appel à moi, parce qu'on a fait partie d'un même colloque, etc. Ils ont fait appel à moi. Et en fait, c'est pas les mathématiques que je leur ai fournies. En fait, ce qu'on a fait, c'est des choses peinture, musique. J'ai fait des choses, des peintures d'après leur musique. Ils ont fait de la musique d'après mes peintures. J'ai contribué à ce qu'ils appellent les unités sémiotiques temporelles qui permettent de déchiffrer, de voir ce qu'il y a des petits éléments de musique, de voir comment le temps correspond à certains souvenirs. Par exemple, il y a la chute qui flotte avec lourdeur, etc. Et j'ai montré qu'on pouvait appliquer ces mêmes choses à la peinture qui permet de... Alors, comme ça, on a un langage commun entre peinture et musique.
Je crois que cette semaine, à la Fondation Vassarelli, tu vas faire une performance... de peinture en écoutant de la musique.
En septembre, je fais ça.
Et là, en effet, tu as beaucoup insisté sur l'aspect corporel.
Exactement.
Qui regroupe ces deux.
Oui, c'est ça. J'écoute la musique et il y a une pensée musculaire, si on peut dire, à la fois en musique et en peinture.
Donc, ça fait quelques décennies que tu as cette pratique. Hein. Si tu penses il y a 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport au contexte où tu étais avant? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées?
Et tu veux dire au point de vue...
Est-ce que le numérique a vraiment bouleversé ta pratique? Qu'est-ce qui a changé sur les 30-40 années?
Oui, bien justement, moi j'ai tendance plutôt à... J'utilise volontiers la technologie, mais je l'utilise pour exprimer des choses qui sont déjà qui existent déjà avant la technologie.
En venant de la physique théorique et les mathématiques, en effet, c'est le numérique vient bien après.
Le numérique vient bien après. La physique théorique et les mathématiques, ça m'a fait comprendre qu'il y a une structure sous-jacente en peinture. Et ça m'a fait comprendre en particulier la relation entre la peinture abstraite et la peinture figurative, qui est la même que la relation qu'il y a entre les mathématiques et la physique. La physique est, si on peut dire, des mathématiques appliquées, et la peinture abstraite, l'art abstrait, c'est l'expression des structures dont on dispose et avec lesquelles on peut faire de la figuration. La figuration, c'est de l'abstraction incarnée, si on peut dire.
En réfléchissant à tout ça, est-ce que tu crois que ton activité artistique a influencé ton activité scientifique? Est-ce que tu as été meilleur chercheur à cause de ça? Ou est-ce que tu as cherché autrement?
Oui, c'est-à-dire, je n'ai pas vraiment cherché autrement, mais je me suis, comment dire, je me suis rendu compte que j'ai été sensible au fait que souligne le mathématicien Jacques Adamard, par exemple, que souligne Einstein, etc., que notre pensée scientifique n'est pas faite à l'aide de mots, mais à l'aide d'images. Et d'images qui s'enchaînent, et même d'images musculaires, si on peut dire. Par exemple, Einstein insiste beaucoup sur sa pensée, il dit combien ça a été difficile pour lui de passer de sa pensée initiale qui est imagée et musculaire, et de passer à l'expression verbale de la pensée.
J'ai une étudiante en thèse, Catherine Evans, et une des questions de son sujet de thèse, c'est qu'à Dallas, on a des étudiants qui sont en sciences dures, mais prennent des cours de son ou de musique. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que la formation en musique ou en son aide des gens à structurer leur pensée et que ce qu'on apprend est transférable à son activité scientifique. Et donc, en effet, là, tu viens de donner un exemple très bon de la pensée musculaire et de la pensée par l'image ou par le son. C'est clair que là, en effet, une formation artistique développe certaines facilités, certaines façons de faire qui sont certainement transférables. C'est le même cerveau.
Il y a Jacques Monod, d'ailleurs, qui disait, qui est prix Nobel de biologie, qui disait que, qui pensait uniquement sous forme musculaire et imagée. Et il disait même, alors ce qui est quand même un peu étonnant, que quand il était au plus profond de sa pensée, il s'identifiait à une molécule de protéine. D'accord. Alors ça, c'est ça peut-être un peu exagéré.
Écoute, on est à la fin de notre podcast. On va terminer avec cette phrase de Monod. Et peut-être on en fera un deuxième.
Et volontiers.
Parce qu'on vient de commencer la conversation. Merci, Jacques.